Eh ben...
Bah, je crois que c'est tout pour l'agenda de ce qui se passe à Marseille. Par contre, on voulait revenir un peu sur notamment un procès qui a eu ces jours-ci à Lyon.
Le procès, effectivement, des évadés de Moulins-Isère, avec notamment donc, dans les accusés Christophe Kider, Omar El Hadj Top et trois autres co-accusés. Et donc, le procès qui a duré donc, 3 semaines s'est terminé jeudi dernier avec le verdict 15 ans pour donc, Kider et Top. Donc on vous rappelle, hein, ça c'était une évasion en 2009 de la centrale de Moulins. Donc ils étaient sortis à l'aide d'explosifs. Et donc voilà, une cavale qui avait duré une trentaine d'heures, si je me rappelle bien. Et donc voilà. Et Christophe Kider, hein, on rappelle, c'est quelqu'un dont on parle souvent ici. Il est au trou depuis donc 1995. Il a 40-41 ans. Avant le procès, là, pour Moulins, il était libérable en 2037. Donc là, il faut rajouter 15 ans. Ça nous fait donc à peu près 2052-2053. Et pour Omar Top, c'est à peu près la même horreur en perspective. Voilà, la seule note positive, si je peux dire, de ce procès, c'est qu'il y avait aussi deux meufs donc, dans les co-accusés, dont l'une était inculpée d'avoir fait rentrer tout le matos, c'est-à-dire le plastique, les calibres en tôle. Et donc elles, les deux femmes, donc, et aussi la compagne de Kider de l'époque, elles étaient au trou donc, depuis 2009, donc 4 longues années. Et donc voilà, elles sont pris 5 piges, ce qui voudrait dire qu'elles devraient sortir s'il n'y a pas d'appel ces jours-ci. Mais normalement, elles devraient être dehors donc, dans la semaine prochaine. Donc voilà.
Et peut-être on en profite pour faire une petite dédicace et souhaiter une bonne cavale à Redouane Faïd. Voilà.
Voilà, toujours pas repris.
C'est ça.
Espérons que ça soit le plus tard possible, voire qui sait, jamais.
Bon, on enchaîne du coup avec des nouvelles de Turin. Donc voilà, je vais rappeler un peu ce qui s'est passé et puis lire deux lettres d'une des personnes qui du coup s'est fait arrêter là-bas à Turin. Alors le jeudi 11 avril au matin, à Turin, la Digos, police politique, arrête 6 personnes, une dans son appartement vers 7h, puis 4 autres dans les rues autour de l'Asilo Occupato. Une 7e arrestation a lieu le lendemain. 3 personnes sont incarcérées dès jeudi à la prison des Valettes, Martha, Greg et Paolo. 2 autres se sont vus signifier une mesure leur interdisant de rester à Turin et dans sa province. Les 2 dernières sont relâchées. Les 3 incarcérés sont inculpés dans la même enquête. Le 28 février, lors d'une initiative solidaire devant le CIE, centre de rétention de Turin, elles sont accusées d'avoir pris à partie un journaliste de Torino Cronaca. Il s'agit d'accusations de violence, menaces et vol aggravé des lunettes de celui-ci. Ces derniers mois, les retenues du CIE se sont révoltées à plusieurs reprises et ont détruit près de 3/4 de la structure, essentiellement les cellules. Au total, cette enquête concerne 6 personnes. Une d'entre elles est encore recherchée par la Digos avec une mesure d'incarcération pour les mêmes chefs d'inculpation. Avec cette répression, la police souhaite faire payer le soutien de dehors aux dernières révoltes de dedans. Diverses actions se sont donc succédées les jours suivants, manifestations, sabotages, etc., en solidarité avec les personnes arrêtées et contre les centres de rétention. Greg a écrit une lettre qui nous a demandé de publier, donc voilà, bon, c'est pas une publication, c'est une lecture, voilà, donc c'est une traduction de la lettre qu'il a écrite. Salut à tous et à toutes, amis et amis, compagnons et compagnonnes. Tout d'abord un clin d'œil à celles et ceux qui pensent à moi, ce n'est pas parce que je suis dans ces geôles que je n'ai pas donné de nouvelles. Comme disait un des deux de Foggia en cavale, pour envoyer une lettre, il faut avoir quelque chose à dire. Alors c'est parti. Je suis en cellule avec Paolo. Donc note, Paolo est sorti de prison le 17 avril et est actuellement placé sous assignation à résidence. Quand la Digos m'a arrêté à 2 pas de l'asilo, j'ai essayé de me sortir de leurs griffes. Je n'ai pas réussi, vu que j'étais à peine réveillé et qu'on était mal organisé avec les amis. Trop peu compact. Bordel. Ce qu'ils couraient vite, ces 5 Digos de merde. Après un passage à l'hôpital, plus pour leur casser les couilles que pour les petites blessures que j'avais, et les contraindre à me trimballer ici et là au lieu de les laisser retourner dans la rue faire leur travail infâme, ils m'ont emmené à la prison de la Valette. Dans la section des nouveaux arrivants, il y a un peu de complicité, née à travers des récits de choses qui se sont passées dans nos quartiers, des techniques de la police pour nous arrêter, du partage du peu que nous avions en arrivant. Je suis devenu un super champion de la chasse aux mégots et des parties de foot sous le soleil du printemps. Le premier saluto, donc saluto c'est un rassemblement devant l'atoll en solidarité, nous l'avons bien entendu mais pas vu, ils ont bien choisi le côté du couloir où nous enfermer. Les gars de la section remercient les gens venus nous saluer, ça casse un peu la routine d'ici. Il semble que les inculpations pour rapina, donc vol avec violence, et association de malfaiteurs sont à la mode ici et servent pour tout et n'importe quoi. Les peines encourues par nos compagnons sont lourdes. Mais dans notre cas, il s'agit de toute façon d'un vol de merde. Bon, je vais m'arrêter là. Patience, force et vengeance, dedans comme dehors, avec rage et amour. Greg, qui a hâte de vous retrouver avec un tiramisu ou une pierre à la main, le 12 avril 2013. Et donc, voilà, il y a une autre petite lettre du 14 avril. Une petite mise à jour, en fait. Voilà. Alors, il y a des gens dans les bureaux de la gendarmerie à Paris, de la section antiterroriste, donc le BLAT, Bureau de lutte antiterroriste, qui ont exprimé une certaine attention à mon égard. En date du 13 avril, il m'a été notifié par le procureur de la République de Turin, M. Pio, une commission rogatoire émanant du juge d'instruction Didier Suc qui exerce à Toulouse en France. Cette requête datant de juin 2012 concerne une enquête, encore et toujours cette maudite affaire de la Beige. Donc voilà, l'affaire de la Beige, on en a déjà un peu parlé sur NDChaîne, donc ça concerne des gens qui ont été inculpés pour avoir manifesté leur colère contre les établissements pour mineurs, voilà, en allant dans les locaux de la PJ. Donc voilà, donc une enquête dans laquelle en novembre 2011, quatre compagnons et compagnonnes françaises ont été incarcérés, une compagnonne soumise à un contrôle judiciaire avec obligation de signer, et un compagnon coincé par le statut de témoin assisté, c'est-à-dire qu'il était obligé de témoigner s'il ne voulait pas d'embrouille avec la justice. L'instruction n'est pas encore close. Les chefs d'accusation concernent une action commise en juillet 2011 avec dégradation et violence contre donc des bureaux et le personnel qui y travaillait. Lié aux prisons pour mineurs, pour plus d'informations, on peut aller sur Internet, voilà, notamment sur le site pourlaliberté.noblogs.org. En pratique, la commission rogatoire du juge d'instruction français à la justice italienne permet à la police italienne, Lady Goss, de m'interroger dans le but d'établir ma possible participation aux faits et mes liens avec les mis en examen. Et deux, si j'y consens, effectuer un prélèvement salivaire d'ADN sur kit FTA pour le remettre immédiatement à la police française. Enfin, la commission demande également que la police française puisse assister à l'interrogatoire. Pour être clair, il ne s'agit pas d'un mandat arrêt européen. Avec cette lettre, je voulais préciser que je me contrefous de ce mouvement de la police française, que je ne collaborerai pas à leur commission rogatoire, que j'insiste sur ma solidarité avec les inculpés et les inculpés et eux des catégories de mouvance ultra-gauche toulousaine ou mouvance anarchiste, qui seront toujours à mes yeux des termes qui démontrent que le pouvoir ne comprendra jamais combien mon individualité est plus riche et belle que leur sale monde de catégories et de cages. Feu à toutes les prisons, liberté pour tous et toutes. Il faut détruire les frontières, physiquement et mentalement. À mes compagnons et compagnonnes, faites attention à vous. Et mes ennemis, je veux qu'ils le sachent, je les emmerde sincèrement. Alors voilà, si vous voulez écrire à Greg, donc c'est Poupin Grégoire Yves Robert, donc CC pour la prison via Pianezza avec 2Z 300-1051 Torino. Voilà, et vous pourrez retrouver l'adresse sur le site de NDChaîne.
Alors, la petite chronique littéraire de NDChaîne. Alors aujourd'hui, deux auteurs de la fin du 19e, début du 20e, une période qui me tient à cœur et qui est pour cause assez riche en littérature subversive. Et donc aujourd'hui, focus sur Francis Carco et Pierre Louis. Alors le premier, Francis Carco est un écrivain donc, qui a chevauché les deux siècles, hein, 19e, 20e, qui est né aux alentours de 1870, si je ne m'abuse. Et donc, il disait, Francis Carco, « Je me promets de foutre en pleine gueule des bourgeois, des romans musclés et pourris, dont ils se lécheront les babouines. » Donc cette promesse, excusez-moi, faite en pleine première guerre à son ami Léopold Marchand, Francis Carco l'a tenu au-delà de toute espérance. Annonciateur du style de Céline, précurseur de Boudard ou de Frédéric Dard, Monsieur Francis, comme on l'appelait dans le milieu, devint dans les années 20 et 30 l'un des écrivains parisiens les plus célèbres. Partageant son temps entre Montmartre et le quartier latin, Carco ne cesse d'explorer les bas-fonds de la capitale. Nul ne connaît mieux que lui le milieu de la prostitution, de la drogue, des racketteurs en tout genre. Si ses romans ont une valeur documentaire indéniable, ils transcendent pourtant toujours la description naturaliste pour accéder à cette poésie âcre de la grande ville. Un romantisme plaintif où l'exotisme se mêle au merveilleux avec une nuance d'humour et de désenchantement. Donc là, ce que je tiens entre les mains, c'est une anthologie d'une partie de ses romans, édité chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et moi, ma préférence va à Jésus Lacaille, qui est un de ses premiers romans, qui a été écrit donc en 1914, et Brume, qui par contre, celui-ci est un de ses derniers romans. Brume nous plonge donc dans Sans ménagement dans les bas-fonds d'une ville portuaire hollandaise. L'hiver y est alors particulièrement rigoureux, ainsi que l'épidémie qui tait son nom, mais qui se ferait un chemin mortifère dans le dédale plébéien de ce quartier, fait de baraques à frites et de fumeries d'opium, de boutiques à tapins et d'effluves d'alcool, de malandrins et de mauvais rêves. Voilà, ça c'est Brume, et il est particulièrement excellent. Deuxième auteur, après donc Francis Carco, Pierre Louis, qui est aussi donc un poète et romancier de la fin du 19e, et dans une œuvre où il allie érotisme élégant, pornographie décadente, pessimisme et cruauté mentale, affect torturé, comme dans son fameux « La femme et le pantin ». Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, ça, c'est un de ses romans phares qui a été mis en scène plusieurs fois au cinéma, notamment par Julien Duvivier avec Brigitte Bardot, et surtout cet obscur objet du désir de Buñuel avec Carole Bouquet. Donc, ces deux films sont inspirés de La femme et le pantin, qui est donc un des romans les plus connus de Pierre Louis. Mais là, aujourd'hui, ce soir, c'est la chronique concerne « Et ta bouche en peau de lys », qui est donc un recueil de poèmes érotiques illustrés par 141 photos inconvenantes. Donc, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher de vous en lire un petit, comme par exemple « Le doigt dans le vagin ». « Ouvre ta chair. Je sais la mort de l'impuissance. Au bout du bras coulé dans les haines, serpent, mon doigt peut t'enfiler tant que ma verge pend et saouler ton désir rageur de jouissance. Le sens-tu comme il rentre avec... Le sens-tu comme il entre avec une chaleur et se promène et te caresse toute rouge, tandis que ton grand corps se contracte et que bouge le clitoris extasié par la douceur. Il s'enfonce, mon doigt pénétrant, il te perce. Ton vagin vorace et vallonné qui s'exerce, intarissablement liquide autour de lui. Tête et gargouille, bouche encore puérile, et trompe avec mon doigt consolateur l'ennui de la trêve imposée à la vigueur virile. » Voilà, c'est un petit poème de Pierre Louis, donc, dans un recueil où il y en a en pagaille. Et donc voilà, et avec des photos début de siècle qui sont pas mal du tout. Voilà, pour ces chroniques littéraires.
Et donc avant de continuer avec le prochain thème qui est sur l'homophobie, et ben on va écouter un petit morceau de musique.
But illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan. He was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now he 30 years he's been wandering, a devil's shadow with a window. He went to prison, and every country he's supporting. Oh, how he loved prison. How lovely, lovely was prison.
Queens and criminal queers, all those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
His greatest love was executed.
Et ouais, du coup, bah, on enchaîne avec un sujet sur un peu ce débat qu'on entend, qui prend une ampleur assez hallucinante autour de cette histoire de mariage, et puis surtout, voilà, quoi, on entend des choses, vous allez voir en fait, parce que voilà, justement, c'est un montage, si ça marche, qui est un peu un espèce de zapping. De certains propos qu'on a pu entendre autour de cette histoire de mariage pour tous.
Et ouais, ça se lâche un peu.
Le plus dur quand on est pédé, c'est le risque qu'on prend en cherchant quelqu'un à aimer. N'importe quel crétin fait la différence entre un homme et une femme. Nous, on est obligé de tourner autour d'un inconnu qui nous plaît. On a peur de se découvrir devant quelqu'un qui va nous cracher à la gueule si on s'est trompé, ou qui ira raconter à tout le monde qu'on est une pédale.
Il s'agit demain de changer véritablement la conception de l'être humain. Mes mots ne sont pas trop forts.
Je ne blâme pas, mais ça n'est pas naturel.
Le mariage est fondé sur la complémentarité et le monde connaît la complémentarité d'un homme et d'une femme. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est une invention de mathématicien.
Nous demandons, nous, nationalistes, la repénalisation de l'homosexualité.
Vous provoquez dans les années à venir... Vous provoquerez dans les années à venir la confusion des genres, le déni de la différence des sexes et la psychose,
s'il vous plaît.
Je crois que c'est important de reconfier tout ça au Seigneur pour que ce soit lui qui fasse les choses et qui donne fécondité à la mobilisation de tous.
Peut-on établir une équivalence entre tous les couples? Je crois au contraire que l'on ne peut mettre fondamentalement sur le même plan hétérosexualité et homosexualité. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil que deux hommes ou deux femmes ensemble. Établir une équivalence, une nouvelle égalité, une nouvelle norme, c'est nier la réalité. C'est rétablir une oppression en confondant genre, sexe et pratique. C'est un dictat de la pensée contre l'humanité vitale et les droits de l'homme et de la femme. Refuser cette différence naturelle, c'est refuser la différence sexuée. La gauche a le pouvoir dans cette assemblée. Je suis un homme de gauche. C'est parce que je suis un homme de gauche que je préfère l'humain et l'humanisme à ce que sous-entend ce test.
En quoi il serait de gauche de se faire enculer? Ce n'est ni de gauche ni de droite.
C'est pas un plaisir de les voir se marier parce que c'est pas dans la normalité.
Donc, quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Chaque religion argumente. La question n'est pas seulement d'être pour ou contre, mais d'argumenter, non pas au nom de convictions religieuses qui feraient que notre position domine celle des autres, mais argumenter dans un langage qui soit celui de la culture française, j'allais dire de la civilisation française, de sorte que tout un chacun, qu'il soit ou non juif, qu'il soit ou non croyant, tout français puisse prendre position. Ce sont des principes d'anthropologie qui font, autrement dit, c'est un modèle de société qui est en train de changer. Alors, est-ce que le modèle de société doit changer parce qu'il y a une petite minorité qui souhaite que la société change? Ça, c'est un principe sur lequel je m'interroge.
Réapproprions-nous l'espace public et ils seront nombreux, les Français, à oser exprimer à nouveau leur préférence pour le bon, pour le beau, pour le vrai.
Ça va péter, oui, je pense. Si le président de la République ne nous propose pas des mesures fortes ou symboliques, c'est-à-dire le retrait de ce texte, qui calmera les esprits, j'en suis convaincu, eh bien, il prendra la responsabilité d'une exaspération qui va se traduire.
De nouvelles manifestations sont prévues.
S'il y a manifestation, j'y serai. Et oui, je sais que s'il y en a une, il y aura du monde, la mobilisation sera là. Et il n'y aura pas de poussettes cette fois-ci. Et il n'y aura pas d'enfants. Ceux qui viendront, nous serons peut-être moins nombreux, mais ce sera des gens beaucoup plus déterminés, beaucoup plus déterminés, beaucoup plus déterminés.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia.
Voilà, voilà. Alors, je sais pas si vous avez un peu reconnu certains des abominations, certains des personnes qui prononcent ces abominations là, qui nous parlent de du mariage, d'ouverture au mariage aux couples de même sexe comme quelque chose qui mettre en péril la civilisation, la société, tout ça. Voilà, donc c'est des propos qui ont été tenus aussi bien par le Kidam qui s'est rendu dans ses fameuses manifs pour tous que par des élus de gauche comme de droite. Voilà, on a entendu Christine Boutin, Nicolas Duic, Christian Van Est ou le député de gauche martiniquais Bruno Nestor Lazera. Et aussi des tristes célébrités comme la désormais fameuse Frigide Barjot ou l'antisémite Alain Soral et le rabbin Bruno Bethléem. Donc voilà, des violences et des propos qui se multiplient. Et ben voilà, on espère qu'il y aura un peu des contre-attaques parce qu'avec ce débat autour du mariage pour tous, la haine homophobe atteint des nouveaux sommets. La menace est claire quand une Frigide Barjot nous dit que Hollande veut du sang et qu'il y en aura, ou que le député Jacob parle d'un risque d'une confrontation violente. Les cathos, fachos et homophobes semblent se croire revenus au temps des croisades. Et de fait, les violences envers les homosexuels se multiplient. Dans la nuit du 6 avril, un salon interassociatif lesbien, gay, bi, trans a été vandalisé à Paris par des militants se réclamant du printemps français. Mercredi, l'attaque d'un bar gay à Lille par des skinheads a fait plusieurs blessés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bar gay a aussi été attaqué à Bordeaux. Il y a quelques jours, le 5 avril, un couple d'homo a été tabassé à Paris. Samedi, deux autres homos ont été agressés à la sortie d'une boîte à Nice. Et sur le premier trimestre 2013, le nombre de témoignages recueillis par l'association SOS Homophobie se rapproche déjà du nombre de ceux recueillis sur toute l'année dernière. Alors ces actes et ces menaces méritent une riposte sans concession avec l'ordre établi. Il s'agit de s'organiser face à ces fanatiques de tout poil, à cette homophobie plus ou moins latente, et de le faire sans attendre. sans attendre quoi que ce soit de la part de l'État, de ses lois, de ses flics et de ses relais citoyens, mais avec rage et avec nos propres moyens. Et bah voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire un peu par rapport à ça, mais en tout cas on va continuer un peu à parler de ça. Je vous propose d'écouter le chant du phare. Donc le phare, c'était le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui s'est monté dans les années 70. Et puis après, d'enchaîner direct avec une petite phrase, un petit sample de Guy Hockengame qui était aussi dans ce fameux Front homosexuel d'action révolutionnaire.
Dans le monde sans prétention, dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation, qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt, on ne fait pourtant de tort à personne, si on est un gars et qu'on aime un homme, mais les braves j'en aime pas que, l'on met ailleurs que notre queue, non les braves j'en aime pas que, l'on met ailleurs que notre queue, tout le monde se rue sur nous. Mais notre patience est à bout, qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose, nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour nous apparaissons, et vive la révolution. Au grand jour nous apparaissons,
je pense,
et vive la révolution.
Dire que c'est la bourgeoisie qui réprime les homosexuels, je pense que c'est des tas de trucs qui remontent à la religion, au christianisme et tout ça, c'est bien plus ancien. Et que, effectivement, c'est la bourgeoisie qu'il porte actuellement, c'est elle qu'on va démolir, mais que c'est vraiment tout ce qu'elle trimballe avec elle qu'on va démolir, c'est vraiment tout le passé, hein, et qu'il y en a lourd.
Ouais, il y en a lourd. Là, je vous propose d'enchaîner avec un texte, un texte un peu polémique peut-être, mais en tout cas, que j'avais envie de lire. Désintégrer les intégrismes sans s'intégrer. L'existence d'une visibilité homosexuelle dans notre petit monde occidental laisserait à penser que tous les hommes attirés par d'autres hommes, tout comme les femmes attirées par d'autres femmes, seraient désormais libres de s'affirmer et de mener une existence comparable à celle des couples hétérosexuels. Parce qu'il existe des lieux où l'on peut consommer de la rencontre et de la culture gay, moyennant finance, parce qu'il y a désormais des lois pour dénoncer l'homophobie, ou parce que l'on peut même avoir un statut légal pour fonder un couple et bientôt une famille, on veut nous faire croire que le combat contre l'oppression morale qui condamne l'attirance sexuelle pour une personne du même sexe serait bientôt dépassé, ou alors qu'il se situerait seulement dans le champ de la légalité. Eh bien, il n'en est rien. Au boulot, dans la rue, dans les halls, au comptoir, dans les tôles, dans les HP, parce que nous n'avons pas les privilèges économiques qui nous en préservent, nous subissons toujours le joug de la morale phallocrate et l'incapacité de transcender la norme et la bienséance hétérosexuelle. Si la répression à notre encontre n'est plus inscrite dans la loi, elle est encore bien présente dans les esprits et se transforme trop souvent en diverses agressions. Alors avouer son homosexualité, que ce soit à sa famille, à ses potes, à ses collègues, ne se fait jamais sans difficulté. D'autant plus si l'on habite à la campagne ou en banlieue, ou si l'on bosse dans certains corps de métiers à forte présence masculine. Le PD est encore souvent considéré comme un être immature, voire un sous-homme, un dépravé, un dégénéré, un malade. Quelqu'un à qui l'on ne peut faire confiance, quelqu'un qui devrait avoir honte. Pire, désormais le PD est associé au cliché qu'en ont fait les médias, un être frivole qui se complaît dans un consumérisme à outrance, dans le monde des apparences, du fashion ou du sexe marchandise. Pour un peu, nous serions tous semblables à un Delanoë ou un Jean-Paul Gaultier, à tel imbécile de série télé ou de une de magazine. Les revendications partielles, l'identitarisme et leur récupération par le système capitaliste ont achevé de caricaturer une culture gay, qui sert de repoussoir pour les uns et d'argument pour tous ceux pour qui l'homosexualité n'est qu'une déviance de bourgeois, d'occidentaux ou de mécréants, c'est selon. Alors à quoi bon sortir de l'ombre si c'est pour être sous les projecteurs de cette société marchande ? À quoi bon sortir du placard pour se laisser enfermer dans les ghettos créés par la bourgeoisie ? Nous haïssons les réacs de tout poil et de toute confession, qui voudraient ne plus nous voir ni nous entendre. Oui, nous les haïssons, et nous voudrions les combattre, jusqu'au dernier. Mais pour autant, nous ne nous laisserons pas instrumentaliser, ni récupérer par les homosexuels bien-pensants, ni par ceux qui nous tolèrent, simplement pour stigmatiser d'autres cultures et exalter leur fierté nationale ou républicaine. Nous refusons de respecter les bonnes mœurs, de nous conformer à la norme du couple, de la famille nucléaire. Nous ne voulons pas d'une intégration, d'une quelconque reconnaissance sociale, trop étroite pour nos aspirations à la diversité et à la liberté. Nous refusons d'être des victimes et nous préférons rendre les coups de mille manières plutôt que d'en appeler à la protection policière ou aux compensations judiciaires. Nous ne correspondrons pas au rôle qu'ils veulent nous assigner. Nous ne visons pas à aménager cette société capitaliste et patriarcale. Nous ne voulons œuvrer qu'à sa destruction, à la liquidation de toute forme de domination. Et voilà, c'est signé quelques PD prêts à riposter.
Très bien. Juste, moi, ça m'évoque, comme tu parlais effectivement du phare, hein, là, le petit passage qu'on a entendu qui est tiré de la révolution du désir, donc, histoire du phare. Et c'est, moi, je trouve que ce documentaire est intéressant à plus d'un titre, notamment de voir le discours des PD de l'époque, en tout cas des PD et des Gouin du phare, qui est autrement plus offensif qu'une partie du discours qu'on peut entendre aujourd'hui de volonté d'intégration, normalisation de l'homosexualité et de revendication citoyenne d'accession au mariage. Et qui est relativement pauvre au vu de justement de ce qui pouvait être dit à l'époque, en tout cas en 1971, là, à l'époque du phare. Voilà.
On enchaîne par une petite musique peut-être. Si ça va.
Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été. Salissant les pare-brises, je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés à garder les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bonzes qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadaptée. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis inadaptée. Je suis inadaptée.
Ouais, vous êtes toujours sur NDChaîne 88.4 sur les ondes de Radio Galère et donc on continue cette émission avec le thème sur la folie, l'enfermement, la psychiatrie, enfin surtout la psychiatrie et notamment les nouvelles catégories.
Voilà, les nouvelles catégorisations des troubles mentaux, puisque nous sommes inadaptés et que la norme sans cesse tente de nous rattraper. Voilà, donc la maladie, c'est le contraire de la santé. C'est tout ce qui s'écarte de cette norme et qui devient alors un symptôme. Et c'est la liste de tous ces symptômes qui permettra ensuite au médecin d'établir le fameux diagnostic. Donc, la maladie, c'est surtout une question de définition de ce qui est hors norme. Et à chaque fois que cette définition s'élargit, il y a des nouvelles catégories de malades qui apparaissent. C'est assez visible dans le domaine de la psychiatrie, où on a vu naître ces dernières années tout un assortiment de pathologies. Troubles du comportement, bipolarité, kleptomanie, hyperactivité, etc., etc., etc. Classifier, catégoriser, c'est justement l'objectif du DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association américaine de psychiatrie. Alors, la puissance financière de cette association, qui regroupe plus de la moitié des psychiatres du monde, a imposé les classifications du DSM à toute la planète. Au fil des évolutions successives du fameux manuel, la liste des symptômes s'allonge pour justifier toujours plus de prescriptions médicamenteuses. Mais jetons un petit coup d'œil en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, et sans doute en réponse au traumatisme qu'elle a engendré, la classification internationale des maladies, créée par l'Organisation mondiale de la santé, se dote pour la première fois d'une section concernant spécifiquement les troubles mentaux. On commence à se pencher sérieusement sur tout ce qui, dérangé, dérange. La première édition du DSM est publiée peu de temps après, en 1952. Dans cette version, on recense 106 catégories de maladies, et dans la seconde, en 1968, on en compte déjà 182. Dans le lot, d'ailleurs, l'homosexualité, qui sera finalement retirée du catalogue des pathologies en 1973 après une longue série de manifestations. Dans les années 80, avec le DSM numéro 3, on passe à 265 catégories de troubles divers et variés. C'est aussi le début d'une réforme complète de la clinique. Il s'agit d'unifier, d'homogénéiser les diagnostics au maximum, en utilisant les critères les moins subjectifs possibles. Le médecin doit être capable d'établir un diagnostic infaillible. Une fois étiqueté, le patient peut être mécaniquement orienté vers des protocoles de soins standardisés. Avec le DSM, le rêve des rationalistes des siècles passés est réalisé. On a enfin réussi à enfermer la maladie mentale dans une classification, à cerner définitivement ce qu'on entend par « folie », à mettre de l'ordre dans ce qui, justement, représente le désordre. En parallèle, les laboratoires de neurochimie commencent à expérimenter des traitements sur des groupes soi-disant homogènes de malades, c'est-à-dire des gens qui présentent plus ou moins les mêmes symptômes. L'expérimentation, c'est pas nouveau, mais les méthodes s'affinent. En 1994, le DSM-4 voit le jour, classifiant toujours plus de pathologies, et les petites magouilles qui se trament en haut lieu continuent. Les compagnies pharmaceutiques subventionnent largement les congrès, revues et recherches liées au contenu du DSM, car ce qui est susceptible d'être diagnostiqué a, bien sûr, un impact sur les ventes de médicaments. Une étude démontrera d'ailleurs que plus de la moitié des rédacteurs du manuel entretiennent des liens financiers de différentes natures avec l'industrie pharmaceutique. Des pathologies telles que la bipolarité ou l'hyperactivité sont inventées pour correspondre à de nouvelles molécules censées les guérir. Le petit monde de la psychiatrie étant le champ de ces expérimentations. Et voilà maintenant le DSM-5 qui arrive, porteur de grandes espérances, on l'attend pour le mois de mai. Avec lui, le seuil historique sera atteint. Les États-Unis et le monde avec eux compteront une majorité de malades mentaux. Dépression liée au deuil, syndrome prémenstruel, hyperphagie boulimique, troubles d'accumulation compulsive ou encore troubles de dérégulation dits d'humeur explosive. Notamment chez les enfants et les adolescents. Bref, diagnostic, prescription pour assurer la production et la distribution de tous ces trésors de la chimie. Voilà l'état normal du monde. Le numéro 5, avant même sa publication, essuie un certain nombre de critiques venues de différents bords. Les rédacteurs du numéro précédent, qui était pourtant lui aussi un sacré torchon, font même circuler une pétition contre cette nouvelle édition. Je cite... Le DSM-5 ouvre la voie à ce que des millions et des millions de personnes actuellement considérées comme normales soient diagnostiquées avec un trouble mental, reçoivent un traitement et une stigmatisation dont ils n'ont pas besoin. Alors, même s'ils ont sans doute des raisons qui nous échappent de se tirer dans les pattes les uns des autres, ça promet. Voilà, c'était donc le DSM et son évolution du numéro 1 au numéro 5 qu'on attend avec une impatience folle pour découvrir tout un tas de nouveaux troubles qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et ben, on va donc continuer cette... Oui, bien sûr, les nouvelles molécules qui vont aller avec. On va continuer cette partie sur la psychiatrie, peut-être avec un peu de musique, ou peut-être avec un montage.
Alzheimer mange de la cervelle, décide et s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Le sac à main dans le frigidaire, les bébés boivent du lait de toilette. La Nice regarde des photos d'elle, trouve cet étranger à son goût. Oh, c'est qui cette belle dame? Mais voyons, c'est toi mon amour. Elle est pas fière, Miss Alzheimer. Miss Alzheimer mange de la cervelle, décide et s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer enfile son manteau, elle dit que c'est l'heure d'y aller. Peut-être à la sortie de l'école, pour ses enfants de la quarantaine, ou bien acheter à manger. Il y a des beaux steaks chez le cordonnier, cuit avec un fer à repasser. C'est excellent et c'est vite fait. Miss Alzheimer mange de la cervelle, décide et s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer la nuit se réveille, monsieur que faites-vous dans mon lit? Mais mon amour, je suis ton mari. Sa Miss Alzheimer le prend mal. Non mais dis donc, faut pas me la faire. Allez, où ce gamin hors du lit? Alors le vieux gamin se relève, il pleure, il rit et il engueule. Miss Alzheimer mange de la cervelle, décide et s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer a mangé sa cervelle, monsieur a perdu son amour. Stop, il n'y a plus personne.
C'était les L Miss Alzheimer. Et pour continuer, on voulait vous passer une petite interview des auteurs d'une brochure qui s'appelle « À claire voix, manuel de savoir vivre entre les fous ».
De savoir être fou en société.
Voilà, manuel de savoir être fou en société. Et qui est un espèce de guide sur, qui donne un peu des outils sur comment s'en sortir face... face à l'administration psychiatrique, qui donne un peu des clés quand on a affaire, que ce soit au psychiatre en tout genre ou quand on se retrouve en HP.
Ouais, ou par rapport aux médicaments aussi. Ouais, ça permet un peu d'y voir plus clair par rapport à ça. Radio Galère.
À écrire cet ouvrage et à vouloir expliciter un peu plus ce qu'était la psychiatrie. Et c'est assez drôle parce que on a rarement l'habitude de voir des choses écrites par des soignants et des soignés et des proches de soignés. Et du coup, j'avais envie un peu de vous entendre là-dessus sur qu'est-ce qui a fait que vous aviez des intérêts communs dans cette histoire. Parce que voilà, écrire un ouvrage sur la psychiatrie qui quand même est critique de d'un système avec un soignant, par exemple, ça paraît assez peu probable. Quels sont vos intérêts communs?
Nos affinités, on dira un gros mot politique, qui nous rassemble autour des principes de base, que ce soit l'autogestion, l'autonomie de l'individu, l'autodétermination, etc., qui font que on côtoie des gens qui vivent en collectif. Dans ces collectifs, il y a des gens qui pètent les plombs. Le collectif est tout désemparé. Et ça paraît assez questionnant. Nous, c'est des situations qui sont reproduites à plusieurs reprises et qui nous ont questionnés sur pourquoi, mine de rien, malgré tous nos discours, malgré toute notre démarche d'écoute de l'autre, etc., on pêche de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut pas voir? Qu'est-ce qu'on veut pas risquer quand on a du mal à aider quelqu'un qui paraît proche et qui, au final, on ne sait pas dire les choses élémentaires?
Et comme on n'a pas les outils pour les soutenir, la seule solution qu'on trouve, c'est finalement que la famille prenne en charge la personne et qui finit par l'hospitaliser. Et aussi, on voulait aussi, comme ce que j'ai dit avant, lancer aussi les débats pour développer les pratiques collectives pour libérer les gens de la psychiatrie, en utilisant ces savoirs, en sachant qu'est-ce qu'il y a de positif, s'il y a quelque chose de positif, mais en tout cas, l'étudiant, pour nous armer et pouvoir être conséquente et pouvoir amener un soutien à cette personne-là.
Oui, peut-être pour pas se déresponsabiliser face à justement un système qui nous propose des choses qui ne nous conviennent pas. D'essayer de réfléchir à des alternatives, mais qui peuvent être des alternatives groupales et individuelles. Enfin, essayer de réfléchir à comment, quelle posture adopter face à ce système-là, quoi.
Et il se trouve que ça tombe bien, c'est que sur Toulouse, il y a pas mal de gens qui bougent là-dessus. Il y a notamment une asso qui s'appelle Santé Active Solidaire, qui est une asso transpédéguine de soutien autour de la santé en général, et qui a creusé cette question en décembre et qui continue à pas lâcher l'affaire sur notamment la question du testing de soignants en fonction de critères que ce soit la CMU, mais aussi...
Ça veut dire se rendre chez des soignants et vérifier qu'ils acceptent bien la prise en charge de la CMU et d'autres critères du type...
Comment tu regardes mon homosexualité ou mon genre différent, mon transgenre différent, etc. Et comment tu l'acceptes, comment tu la prends en compte, quels préjugés tu me balances pas à la gueule, etc. Et aussi, que faire quand quelqu'un pète les plombs en collectif? Qu'est-ce que c'est que la communication, mine de rien, interpersonnelle ou de groupe entre nous quand on vit ensemble dans un lieu ou quand on se côtoie régulièrement?
Voilà. Ça donne écho à, dans la brochure, on a mis en place surtout un texte un peu central au départ pour nous, qui est le décalogue. Peut-être tu peux citer les référents.
Voilà, les décalogues, ça vient d'un bouquin, un ouvrage collectif fait à Madrid, ça s'appelle UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados, en la guerra contre la mercancía. Là, on l'a traduit, et c'est un ouvrage qui s'est sorti en 2004.
Et le décalogue, c'est 10 questions qu'on peut poser quand on arrive auprès d'un psy au sens large, pour essayer d'avoir une relation la plus horizontale possible, style qui c'est qui définit les objectifs de la guérison. C'est-à-dire, souvent, c'est le psy qui va dire « pour que tu sois mieux, il faut que tu sois comme ça ». Or, on a peut-être chacun notre petite idée de ce que c'est pour nous d'être mieux. Repérer tous les phénomènes de dépendance, parce que quand on prête un savoir à quelqu'un, on en devient dépendant. Quelle durée ça va prendre? Le décalogue, c'est... le point de départ un peu pour nous aussi de comment on peut aborder cet univers sans être forcément dépossédé.
Donc le décalogue comme un peu une arme pour aborder les soignants et arriver à plus choisir ce qui se passe pour la personne qui vient demander de l'aide.
Ouais.
Mais est-ce que selon vous c'est possible de trouver de l'aide qui soit pas un truc normalisant dans les structures qui existent aujourd'hui? Parce que vous avez fait aussi dans votre ouvrage une espèce de référentiel... Alors, je ne sais pas s'il est exhaustif, moi je ne m'y connais pas assez, mais de tous les types de prise en charge possibles qui sont proposés aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des espaces où c'est possible d'être soigné sans que l'objectif ce soit de rendre moins fou pour être plus adapté à ce monde de merde?
Silence éloquent. Après, de toute façon, je pense qu'il faut toujours garder à l'idée que le soin avec un thérapeute quel qu'il soit, c'est entre deux personnes que ça se joue. Alors c'est dans une structure qui est plus ou moins contraignante, qui a plus ou moins de schémas préétablis, déterminés, que ce soit l'approche médicamenteuse notamment, qui reste un des axes majeurs du soin aujourd'hui, que ce soit dans les cliniques privées ou dans le public, et après tout ce qui est un peu parallèle, toutes les autres formes de thérapie, quand bien même on pourrait s'y reconnaître de manière idéale, je sais pas, la Gestalt ou la psychiatrie radicale ou quoi, des mouvements qui sont nés dans les années 70 et pour lesquels on pourrait avoir plus d'affinité, il n'empêche que si en face de vous, vous avez un gros crevard que vous ne pouvez pas blairer, quand bien même il prétendrait avoir les mêmes idées que vous et une affinité particulière, il y a aussi cette vigilance-là qu'il faut avoir à tout moment, quoi.
Moi, je crois qu'il y a des thérapeutes qui sont moins pires que les autres et même qui peuvent nous amener en libération. Et voilà, si tu voulais, on peut parler aussi de la psychiatrie radicale, que c'est un travail qui a été fait depuis quelques années. Et oui, je crois qu'il y a une différence. Et voilà, c'est les gens qui peuvent nous amener à nous donner quelques outils.
Puis un des indices possibles dans lesquels on pourrait se sentir mieux, ce serait par exemple quelle place est faite au groupe d'autosupport, au fait que les personnes soignées, psychiatrisées, puissent entre elles réfléchir à leur propre problème, entre guillemets, ou leur manière de leur vécu, leur quotidien, ce qu'ils n'arrivent pas à gérer, etc. Et quelle place il est fait à cette parole-là, parce que même dans les structures, à l'HP, des groupes de parole, ou dans les petites structures dépendant de l'HP, mais toujours dans cette filière-là, les groupes de parole, il y a toujours un psychiatre qui ramène sa fraise, parce qu'à aucun moment, on peut quand même laisser les malades parler entre eux tranquilles, parce que va savoir ce qu'ils vont se dire, et va savoir quelle énergie ça va leur donner, et je pense que ça, c'est un des critères, par exemple, qui peut être déterminant. Comme la possibilité de négocier ou pas avec son psy le dosage du médicament, la posologie. Est-ce que pour le psy, il envisage ça comme possible à un moment? Ben oui, le but, c'est que tu arrives à arrêter les médocs tout en ayant content de comment ça marche ton cerveau et qu'est-ce que tu as comme vie sociale.
Après, en étant dans le milieu, justement, peut-être pour répondre honnêtement, je pense que idéaliser à l'heure actuelle dans le système un lieu de soins qui soit ce qu'on voudrait, ce qu'on aspirerait, il n'y en a pas.
Beaucoup de demandes de prise en charge, c'est des situations qui se font dans l'urgence où voilà, il y a une personne qui craque, c'est plus possible pour elle de continuer à vivre dans son environnement normal avec les troubles que peuvent procurer quelques maladies que ce soit ou je sais pas comment appeler, pétage de plomb, pète au casque à des moments, voilà, et que il faut trouver de l'aide et que souvent c'est dur d'en trouver auprès des proches, qu'on arrive à toute vitesse dans des endroits pour demander un peu d'aide et que c'est dans des endroits souvent où les prises en charge d'urgence elles sont les plus hardcore, quoi. Ouais. Par exemple, à Toulouse, il y a eu cette grève là récemment à l'hôpital Marchand. Est-ce que vous avez trouvé des relais de choses que vous dites dans ce livre, dans les revendications des soignants là-bas?
Il y a un certain nombre de soignants qui commencent à s'apercevoir quand même du rôle sécuritaire qu'on veut majoritairement leur faire jouer. De voir que le fait que le système psychiatrique dépossède complètement.
Pour rebondir, quoi, il y a ces mouvements de psychiatres, que ce soit l'appel des 39, la nuit sécuritaire, l'appel des appels, mais c'est un homme, etc. Qui, justement, voilà, comme le dit la dame avant moi, parle de ce sécuritaire qui enfreint leur marge de manœuvre et qui leur dicte une ligne dans laquelle ils se reconnaissent de moins en moins. Après, moi, ce que j'aimerais bien pouvoir leur renvoyer, c'est où sont les psychiatrisés à votre tribune, quoi.
Nous, on a pensé qu'il faut rendre la parole à les psychiatrices, hein, et c'est à eux plutôt de résoudre par eux-mêmes. Et voilà, et les psychiatres, ils peuvent nous amener quelques outils, mais c'est plutôt à les psychiatrices en soi-même. Et voilà, c'est ça qui parle de la psychiatrie radicale, parce qu'ils ont été influencés par les mouvements autoritaires des années 70 dans les États-Unis, par les mouvements des femmes, des gays, des lesbiennes et les mouvements de libération des noirs. Il parlait de ça, qu'il faut que les personnes qui se font dominer, que c'est les principes de la souffrance psychique, il faut que ça se retrouve entre eux. Alors voilà, c'est ça le problème avec tous ces groupes qu'on parle, que finalement, ce n'est pas un psychiatre qui doit trouver la solution à toi, c'est plutôt les psychiatriciens en soi-même qui doivent s'organiser, et trouver, démystifier son aliénation et essayer de trouver les outils pour aller vers la libération.
Et pourtant, toute la psychiatrie est organisée autour de la mainmise des soignants sur tout le déroulement du soin, quoi. Et très souvent, ce qui est psychiatrisé aussi, c'est la normalité et qu'il y a quelques années, c'était normal d'être considéré comme malade mental parce qu'on était PD, gouine, parce qu'on voulait changer de sexe, parce que voilà, il y a encore très récemment, quoi. Toutes ces histoires-là, c'est aussi aujourd'hui plein de gens qui sont en hôpital psychiatrique parce qu'ils sont sans papier quartier, dans des conditions sociales ou politiques complètement ahurissantes, qui fait que non, il n'y a rien qui peut fonctionner normalement dans ma vie, parce que juste la situation qui m'est faite est impossible. Et pourtant, la réponse qui est faite, c'est prends un médoc et raconte-moi ta petite enfance.
Et encore, raconte-moi ma petite enfance. Des fois, on se garde bien de le demander, parce que ça fait remettre en question papa, maman et l'État qui est derrière, et Sainte Mère, Marie, Vierge de Dieu. Donc, généralement, ça arrive souvent aussi. Quoi, moi, personnellement, à l'HP, où j'y suis allée plusieurs fois, etc., ma petite enfance, on n'a rien voulu en savoir. C'était prends ce médoc et puis sois sage. Et comme tu disais, quoi, voilà, tout ce qui est anormalité, mais quelle est cette norme? C'est une norme où on veut que tu sois posé, calé, que tu mouftes pas, que tu arrives à te lever le matin pour aller au CAT gentiment, mettre des vis dans des trous, et point barre, ils en ont rien à foutre du reste, limite. Hein.
CAT, c'est les systèmes où on emploie les psychiatrisés pour travailler, donc ils n'ont pas le droit au droit de grève, il y a tout un train aussi de lois du droit du travail qui ne sont pas du tout respectées dans ce genre de structure.
Qui a l'image du travail qu'on propose aux tolards, quoi, grosso modo.
Grosso modo, oui.
Ouais, et puis après avoir été payé comme des merdes, avoir été logé dans des foyers où il y a les mêmes éducs qui les matonnent le soir, et ben à leur retraite, et ben ils sont en foyer occupationnel, voilà, pour pas rester inoccupé, parce qu'on sait jamais, ils pourront aller s'asseoir sur un banc et faire peur aux voisins.
Et peut-être pour faire écho à ce que dit Hello, la petite enfance en ce moment en psy, ça vient pas trop, parce que depuis 20 ans, il y a un courant qui s'appelle la thérapie comportementaliste, en fait. Et l'idée, c'est que c'est des thérapies normatives, c'est-à-dire 20 séances pour un schizophrène où il va essayer de se redresser de sa schizophrénie et on va lui expliquer qu'en gros, l'hallucination, c'est pathologique, tout ce qu'il entend dans sa tête, ça n'existe pas. En fait, ces thérapies, elles sont bien en vogue parce qu'elles sont facilement remboursables et quantifiables. Donc politiquement, c'est très pratique. Et là, c'est vrai qu'on ne demande absolument pas au sujet d'être sujet. On lui demande de suivre point par point les différentes étapes de la thérapie vers une normalisation. Et
ça, d'ailleurs, elles sont apparemment tellement à la mode qu'elles sont réutilisées régulièrement par l'État pour mettre en place des lois autour de la prévention de la délinquance, par exemple, avec des analyses directement tirées des théories comportementalistes pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne un enfant et comment on peut repérer les signes d'une future folie ou future délinquance chez un enfant de 2 ans en fonction de quel jouet il choisit à la maternelle, etc. C'est assez inquiétant de voir comment certaines méthodes de soins sont réutilisées aussi directement par un système avec vocation de contention, quoi, ouais, et de contrôle. Quoi. Vous, du coup, vous avez décidé de donner des outils. Alors, du coup, peut-être on peut reprendre un peu le sommaire de cet ouvrage pour voir un peu, enfin, du coup, c'est un peu expliquer d'où vous venez, etc., qui vous êtes. Et puis, il y a donc cette explication de comment est-ce qu'on arrive en psychiatrie. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est quoi l'hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est ça ? Oui. L'hospitalisation d'office.
Et l'hospitalisation libre. le mot est très très beau.
L'oxymore,
voilà. Ouais, on a essayé de décrire un peu les différentes étapes, parce qu'en général, on arrive aux urgences, ou alors c'est le généraliste, le médecin de famille qui fait un certificat, et donc on se retrouve ensuite dans notre secteur psychiatrique qui dépend de là où on habite en ville. Et après, donc, il y a différentes structures sur l'HP. Il y a ce qu'on appelle les services d'admission, c'est-à-dire ça, c'est la crise. C'est là où on va en chambre d'isolement, on fixe le premier traitement d'urgence, etc. Après, au mieux, on y reste entre 3 semaines et 1 mois. Et après, selon notre état, on va dans un service de suite. Ou alors on sort et on est suivi en ville par un CMP, un centre médico-psychologique. Mais tout ce qui est grosse crise, en fait, ça passe par ce schéma-là, quoi. Mmh. Il est possible de s'adresser directement à un psychiatre et essayer d'éviter le circuit psychiatrie, mais suivant l'intensité des troubles, on va être amené à rencontrer l'HP, quoi.
Ouais, soit volontairement, soit à la demande d'un tiers, voilà. et de l'État, quoi. Ouais.
On a défini un peu les différentes modalités d'arriver en psychiatrie et les différents noms, justement, d'hospitalisation sans consentement.
Et ensuite, vous avez essayé de décortiquer, donc on en parlait tout à l'heure, toutes les différentes méthodes de soins, donc des plus en vogue actuellement, hein, les comportementalistes, mais aussi plein d'autres choses.
On a essayé
de parler tout à l'heure.
Ouais. de définir la différence déjà entre un psychiatre, un psychologue, un infirmier, parce qu'ils n'ont pas les mêmes enseignements et donc pas les mêmes pratiques. Et après, effectivement, quand on est en psy, il y a tous les courants idéologiques, que ce soit la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, la systémie, et suivant quel courant idéologique on va rencontrer, on ne va pas du tout être soigné de la même façon. Donc, pour que la personne elle-même se trouve un courant qui lui correspond à peu près, on a essayé de décrire les auteurs et les théories principales de ces courants-là, pour être un peu plus acteur du courant dans lequel on s'inscrit. Parce que si on va voir un coach ou si on va voir un psychanalyste, on n'a pas du tout la même dynamique de soins. Quoi.
Donc là, pour écrire ces trucs-là, vous avez utilisé quel type de source, en fait ?
Mes études et puis toutes les lectures qu'il y a autour. Et puis après, on a décloisonné un peu vers la psychiatrie radicale, vers tout ce qui était courant de psychiatrie institutionnelle, parce qu'ils ont vachement bossé là-dessus. Sur une clinique qui s'appelle la clinique de Laborde, notamment, où ils ont vraiment réfléchi à... Comment essayer à l'intérieur d'une clinique de réintroduire des rapports hiérarchiques différents, de redonner une place au sujet. C'est tout un courant qui à une époque, a bien bouleversé le rapport à la psychiatrie, mais on en est revenu, quoi.
Et sinon, on parle aussi des médocs.
Ouais.
Dans la même idée, donner un peu des pistes sur les différents types de médocs possibles et surtout les effets secondaires, parce que quand on a les premières prescriptions... On a beau être au courant qu'il peut se passer des choses, on est assez surpris et donc du coup c'est bien de savoir un peu à quoi s'attendre.
Voilà, c'était une petite présentation de la brochure à claire voix, manuel de savoir être fou en société que on peut trouver, je pense, sur Internet, notamment sur basseintensité.internetdown.org. Je vous conseille vivement la lecture, surtout si vous ou vos proches sont confrontés à la psychiatrie et aux médicaments, tout ça. Et puis, je vais vous lire un texte qui est donc dans une autre brochure qui s'appelle « Se libérer de la psychiatrie » et qui a été écrite à l'occasion des rencontres de Toulouse en mai 2012, les rencontres « Réagir et soutenir ». Et donc ce texte, c'est un texte qui a été écrit par un groupe qui s'appelle « Psychiatriser en lutte », un groupe de soutien mutuel à Madrid. Et donc voilà, c'est une expérience que je pense intéressante. Alors le texte s'appelle « En allumant des feux dans la nuit obscure » ou « Sur la construction des résistances à l'ordre psychiatrique ». Cette société rend les gens fous, chaque jour de plus en plus. Ceci est notre point de départ. Il ne semble pas insensé d'affirmer que dans l'environnement dans lequel nous vivons,
celui ou celle qui n'expérimente pas personnellement quelques problèmes en rapport avec la santé mentale, de différentes natures, qui peuvent aller d'une dépression à une psychose, en passant par tous les types de pétages de plomb, comme on dit, connaîtra très probablement quelqu'un de proche en train de souffrir psychiquement. Le mal-être et les pathologies mentales augmentent de manière exponentielle. La consommation de psychotropes se généralise, à tel point qu'on considère comme normal le fait que des enfants, adultes, personnes âgées, ingèrent quotidiennement des substances chimiques pour s'adapter aux exigences et à l'urgence de ce monde. L'existence de l'être humain était réduite à une compétition adaptative, à une danse des images dans laquelle personne ne sait qui est qui. Cette société qui nous rend fous ne connaît qu'une logique, et c'est la logique mercantile. Nous produisons des marchandises et nous sommes produites par elles. Le besoin lucratif dégrade la vie et finalement la tue. En Espagne, les statistiques démontrent une moyenne de 9 suicides par jour. Si les libertés qui sont inhérentes à l'être humain ont été remplacées par le besoin d'accumuler des biens et la reconnaissance une fois qu'on les a obtenus, si le bonheur se chiffre à la quantité de matière acquise et l'amour, l'affection, la créativité ou l'intelligence se réduisent à des images grotesques avec lesquelles la publicité nous frappe à chaque instant, est-il si difficile de comprendre que dans un contexte si hostile, les têtes arrivent à se casser ? Pourtant, l'ordre social a su protéger ses arrières, en nous faisant vivre une guerre dans laquelle ceux qui commandent traitent comme de la merde ceux qui obéissent, et ceux qui sont en bas se traitent comme de la merde entre eux, qui tombe est considéré comme coupable, de sa propre faiblesse et de sa propre nature. Cette opération de stigmatisation et de nettoyage est mise en place par la psychiatrie. Une discipline qui, à ce moment de l'histoire, ne veut rien savoir des différences sociales, des vécus personnels ou des rapports familiaux. Elle se limite à dicter des sentences et en appelle à l'organisme de chaque individu pour innocenter la société de la douleur qu'elle provoque. Le plus curieux est que ces prétendues bases biologiques continuent à être aussi faibles que lors de ses premiers pas. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de rétablir une santé qui aurait été perdue. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez personne qui a été soigné vraiment par des drogues psychiatriques. C'est aussi la raison pour laquelle ces drogues ont des effets secondaires si dévastateurs que nous qui les prenons les arrêtons souvent. Nous en sommes là. Les psychiatres affirment catégoriquement que pour la plupart des pathologies mentales qu'ils nous assignent, il n'y a pas de guérison possible, que la seule façon d'atteindre une certaine qualité de vie passe par la prise de médicaments. Et souvent, nous n'avons pas le choix, et nous le faisons, sachant que nous pourrons pallier quelques symptômes, mais que la cause de la douleur, nous devrons aller la chercher. Pour cela, nous disons que nous sommes en lutte, parce que nous pensons que l'autonomie, c'est la santé, et que nous n'avons d'autre choix que de nous battre pour elle. Les sorties que nous offrent les agents de cette société sont murées, et nous laisser traiter comme un problème d'ordre public n'est pas autre chose qu'attenter contre ce que nous sommes, et surtout, contre ce que nous pouvons être. Dénoncer les injustices d'un système qui provoque la folie est évidemment une nécessité. Mais plonger dans une situation où les conditions de vie se dégradent à un rythme vertigineux, et avec le contexte économique actuel encore plus, nous pensons que la principale urgence doit être celle de construire des stratégies qui nous permettent non seulement de résister aux attaques de ce monde, mais aussi qui reflètent ce à quoi nous aspirons. Personne ne va venir nous sauver. Donc nous sommes en train d'apprendre à nous rencontrer. Au milieu de l'obscurité, nous allumons des feux et nous nous reconnaissons entre égaux à la chaleur des flammes. Ceux qui savent le plus de la folie, du traitement ou du stigmate social sont ceux qui vivent avec. Nous parlons en assemblée horizontale, sans hiérarchie. Nous partageons des expériences, des peurs, des désirs. Nous nous formons et mettons en commun chaque savoir qui peut nous être utile. Nous essayons d'organiser et de socialiser tout ce que nous apprenons et vivons. Nous cherchons la liberté, dans la plus radicale de ses acceptations. Parce que nous savons que c'est dans la pratique que coïncide le changement des situations que nous vivons et le changement dans nos têtes. Nous connaissons les risques et les conséquences de ce pari, et nous essayons que la peur ne nous paralyse pas, ni ne nous fasse sentir coupables. C'est cela la véritable maladie qui traverse la société, celle qui maintient les hommes paralysés, ancrés à des simulacres et des certitudes qui en réalité leur sont étrangers, diminuant toute autonomie et empêchant n'importe quelle expérience personnelle et partant de là d'une santé réelle. Nous avons la volonté de vivre, une vie dans laquelle personne ne commande et personne n'obéit, ce qui suppose sortir de soi-même, s'ouvrir aux autres, ce qui suppose en définitive une autre manière d'être dans le monde mais avec l'intention précisément de le faire couler.
L'amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera, je suis.
Spéciale dédicace à Dalida, si elle nous écoute, elle peut nous téléphoner.
Elle est fou. Elle est fou.
Je suis alénée parce que je suis enfermée.
Je suis alénée car le maton me guette.
Je suis parano, on me surveille comme une bête traquée. Caméra vigile les keufs, des yeux se multiplient et m'épient.
Je suis parano, je vois des flics partout.
Je suis schizo, je peux pas vivre comme je veux.
Je suis schizo, je peux pas dire ce que je fais.
Je suis autiste, je vote pas.
Je suis autiste, j'ai pas envie de les comprendre.
Claustro, j'étouffe du métro boulot dodo.
Je suis claustro dans mon 20 mètres carrés.
Je suis agoraphobe.
Je suis agoraphobe.
Je vais les embouteillages.
Je veux plus aller bosser.
Je suis violent, je veux tout voir péter.
Je suis violent, j'aime les émeutes. Je suis associable, je supporte pas les riches et les cons.
Je suis sexopathe, je préfère faire l'amour plutôt que d'aller trimer.
Je suis sexopathe, j'ai envie de tout le monde.
Je suis klepto, mes poches sont trop petites.
Je suis klepto quand mon œil convoite, ma main s'en saisit.
Je suis toxico, une bonne poutrasse, ça me décrasse.
Je suis toxico, un petit joint, ça me fait du bien.
Je suis alcoolo, j'ai l'ivresse des bars. Je suis incurable, je veux pas me gaver de Prozac.
Je suis un hypochondriaque, je mange du poulet aux hormones et du poisson sous antibio.
Je suis boulimique, je veux jouir sans entrave.
Je suis anorexique, je peux plus avaler tout ce qu'ils disent.
Je suis insomniaque, je rêve trop.
Je suis insomniaque, trop de choses à faire la nuit.
J'entends des voix, tout bagage abandonné sera immédiatement détruit.
J'ai des hallucinations, je vois pas des gens mais des moutons.
Inadapté, je veux pas être exploité. Morbide, je veux voir crever tous les patrons.
Déviant, je file pas droit, je vais de travers.
Narcissique, je veux que les opprimés abolissent l'exploitation.
Excentrique, j'aime pas ma sale gueule.
Pas adulte, capricieuse, je suis pas raisonnable, je veux pas perdre ma vie à la gagner.
Pas adulte, je veux pas grandir. Infantile, je reste un rêveur.
Monomaniaque, j'aime le désordre et prends mon pied quand tout part en couille.
Monomaniaque, je hais l'ordre, je prends mon pied quand tout part en couille aussi.
Je suis idéaliste, un autre monde de merde est possible. Pessimiste, ce monde tourne pas rond. Optimiste, je me tape des réformes.
Oh putain, anarchiste, je supporte pas les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-sous-chefs, les sous-sous-sous-sous-sous-chefs. Je suis suicidaire, j'attends la guerre.
Je suis pyromane, j'ai envie de tout brûler.
Je suis pyromane, j'ai envie de tout brûler. Je suis pyromane, j'ai envie de tout brûler. Je suis pyromane, j'ai envie de tout brûler. Inconscient, extravagant, dément, bizarre, anormal, dérangé, marteau, détraqué, cinglé, dingue, malade. Je suis malade. Vrillé, toqué. Il est où mon toqué? Vrillé, toqué. On tourne pas rond, mais pas en rond. Fou, oui, mais pas du roi. On marche en diagonale. En attendant, je garde pas ma camisole de force et vive l'anarchie.
Ouais, Ndeschen, donc l'émission se termine et ben on va vous dire à la semaine prochaine avant de parvenir à envoyer ce putain de générique. Vous avez quelque chose à dire ?
Et ben à la semaine prochaine, ouais.
Et ouais, et puis bah peut-être on rappelle l'existence de l'émission Parloir Libre tous les samedis de 19h à 21h pour passer des messages à ceux qui sont à l'intérieur des tôles pour leur dédicacer des chansons et voilà.
On rappelle aussi le rendez-vous de vendredi, donc 26 avril à 18h à Mille Babord. Une rencontre débat avec Léon de Matisse et Tant qu'il y aura de l'argent. Et le titre de ces débats, c'est « Perspectives de lutte en contexte de crise et d'offensive capitaliste ». Donc vendredi 26 avril à 18h à Mille Babor, qui se situe rue Consola. À la semaine prochaine.
Ciao.
Devenu une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.